Michel Slama. Vous êtes chef de service adjoint du service de médecine intensive réanimation du CHU d'Amiens Picardie. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de l'utilisation des bêta-bloquants dans le choc septique. Alors, première question, quel est le rationnel physiopathologique de l'utilisation des bêta-bloquants dans le choc septique ?
Chez les patients en état de choc septique, il y a deux éléments qui sont très importants à comprendre. Premier élément, c'est que dans un pourcentage de cas élevé, hein, puisque on relève que l'incidence de la fibrillation auriculaire dans le sepsis et dans l'état de choc septique peut aller de 30 à 50% des patients, et que cette arythmie complète par fibrillation auriculaire dans l'état de choc septique est déclenchée par un certain nombre de triggers comme la fièvre, l'hypovolémie, l'utilisation des catécholamines et l'hypoxémie, l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie. Et cette fibrillation auriculaire est associée à une augmentation de la mortalité. Donc ça, c'est un élément qui est bien démontré dans la littérature. Le deuxième élément, c'est que on sait que la tachycardie, en particulier la tachycardie excessive, au-delà de 95 par minute, au bout de 24 heures de résuscitation du patient en état de choc septique, est un facteur de risque de mortalité. Ça a été bien démontré dans des études anciennes, en particulier dans une étude faite il y a quelques années par Parker. On sait donc que lorsque le malade a une tachycardie excessive, eh bien, sa fonction diastolique est bien sûr altérée, le remplissage se fait très mal, et si le remplissage se fait très mal, eh bien, ceci est associé aussi à une mortalité. Ça a bien été démontré, en particulier par une méta-analyse de Filippo, Sanfilippo, qui montre que lorsque l'onde E' en échodoppler tissulaire au niveau de l'anneau mitral est abaissée, qui est un bon reflet de la fonction diastolique, eh bien, la mortalité est plus élevée que lorsque l'onde E' est normale. Voilà. Et puis enfin, on a bien démontré avec Jean-Louis Chauvel que un patient qui était avec une hyperkinésie ventriculaire gauche et une obstruction intraventriculaire gauche, eh bien, avait une espérance de vie, une mortalité qui était beaucoup plus élevée qu'un patient qui n'était pas hyperkinétique, qui avait un ventricule gauche de taille plutôt normale. Donc voilà un petit peu quels sont les éléments, on va dire le rationnel physiopathologique qui va nous pousser à l'utilisation des bêta-bloquants qui vont effectivement contrer tous ces éléments-là qui vont pouvoir ralentir la fréquence cardiaque, permettre le retour en rythme sinusal des patients en arythmie complète par fibrillation auriculaire dans l'état de choc septique, diminuer la fréquence cardiaque pour améliorer la fonction diastolique du ventricule gauche, et après un remplissage correct, si une obstruction intraventriculaire gauche persiste avec une tachycardie et une hyperkinésie, eh bien, l'utilisation des bêta-bloquants à courte durée d'action permet de, en ralentissant la fréquence cardiaque, de diminuer, disons, l'obstruction intraventriculaire gauche, l'hyperkinésie ventriculaire gauche responsable de cette obstruction, et donc d'améliorer à la fois le remplissage du ventricule gauche et à la fois l'éjection du ventricule gauche.
Deuxième question, quelles sont les molécules à utiliser et dans quelles situations ?
On peut dire qu'il y a deux grandes molécules à durée d'action courte, par voie IV, deux bêta-bloquants. Le premier, c'est l'esmolol, hein, qui est commercialisé déjà depuis très très longtemps, et plus récemment, le landiolol. Alors, ces deux médicaments ont un avantage très important, c'est qu'ils ont un délai d'action qui est très court, et en plus, ils ont une demi-vie de quelques minutes, ce qui permet de les utiliser dans l'état de choc septique, même chez des patients hémodynamiquement peu stables, puisque en arrêtant le traitement par voie IV à la seringue électrique, eh bien, l'effet va disparaître extrêmement vite. Donc, ces deux médicaments sont des médicaments qui sont à courte durée d'action, à demi-vie courte, et avec un rapport d'action entre bêta 1 et bêta 2, vous savez que l'action principale que l'on attend avec les bêta-bloquants, c'est une action bloquante sur les récepteurs bêta-adrénergiques 1, et essayer d'éviter d'avoir une action sur les bêta 2. Donc, le rapport entre le blocage B1 et B2 pour les smolol est d'environ 30 à 35, alors que pour le landiolol, il est à plus de 230. Ce qui explique que l'esmolol est probablement un peu moins toléré, un peu moins bien toléré chez les patients en état de choc septique parce qu'il va avoir un effet sur la pression artérielle. Il peut, et ça c'est bien démontré par quelques articles, en particulier un travail qui a été fait par l'équipe de Nancy et par Bruno Lévy, qui montre la mauvaise tolérance dans l'état de choc septique de l'esmolol. Alors que il semble que le landiolol est par son effet essentiellement bêta 1 avec un ratio extrêmement élevé entre bêta 1 et bêta 2, bien permet un ralentissement de la fréquence cardiaque. Ça a été bien démontré dans un certain nombre d'études qui ont été publiées et permet en plus de ralentir la fréquence cardiaque sans faire baisser la pression artérielle. Alors ces deux thérapeutiques, ces deux médicaments peuvent être utilisés dans les indications dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire lorsque le patient est en arythmie complète à fibrillation auriculaire, ça permet de ralentir la fréquence cardiaque et après d'être dans des conditions appropriées pour un retour en rythme sinusal. Et ça permet aussi, dans le cas des états de choc septiques avec des fréquences cardiaques inappropriées, extrêmement élevées, de pouvoir diminuer cette fréquence cardiaque d'environ 20 à 30%. Il n'est pas nécessaire d'augmenter les doses de façon trop importante. Et donc, ça permet d'améliorer la fonction diastolique et peut-être d'avoir une meilleure hémodynamique pour les patients. Donc, voilà un petit peu les molécules qui sont à utiliser en situation clinique. Alors, ce sont des molécules qui, à mon sens, ne doivent pas être utilisées avec un bolus, mais plutôt à la seringue électrique par voie IV, en débutant par des toutes petites doses et en augmentant progressivement pour essayer d'obtenir l'effet escompté.
Troisième question, comment et quand faire le relais des molécules de courte demi-vie?
Alors, pour répondre à la troisième question, comment et quand faire le relais de la molécule à courte demi-vie? Eh bien, moi, je pense que le plus important, premièrement, c'est d'obtenir soit la diminution nette de la fréquence cardiaque avec contrôle de la fréquence sur l'arythmie complète par fibrillation auriculaire ou chez les patients avec flutter, ou bien sûr d'essayer d'obtenir la réduction du flutter ou de la fibrillation auriculaire par l'utilisation de bêta-bloquants à courte durée d'action, ou de ralentir la fréquence cardiaque, comme je l'ai dit, de 20 à 30% lorsque le malade est en rythme sinusal, sur un état de choc septique avec une tachycardie inappropriée sur un malade qui a été bien réanimé avec un remplissage qui a été efficace. Alors, en général, nous, ce qu'on fait, c'est de continuer la thérapeutique par voie IV pendant quelques heures, on va dire 24 à 48 heures, et puis après, ce qui nous semble vraiment important lorsque l'on utilise ces molécules, c'est de ne pas arrêter brutalement le bêta-blocage des patients et donc de passer par l'utilisation d'un traitement PEROS. Nous utilisons volontiers le bisoprolol à la dose de 1,25 ou 2,5 mg que l'on donne au bout de 24 à 48 heures lorsque le patient soit passé en rythme sinusal, soit lorsque le patient a une fréquence cardiaque qui a été ralentie. À ce moment-là, quelques heures après, on peut diminuer notablement les doses et puis 12 ou 24 heures après, redonner un comprimé de bisoprolol et à ce moment-là, le traitement par voie IV, que ce soit par l'esmolol ou par le landiolol, peuvent être arrêtés et le relais PEROS est en prise. C'est très, très important de pouvoir faire ce relais PEROS parce que ce relais PEROS permet de garder ce bêta-blocage. Alors, bien sûr, lorsque le malade sort de son état de choc septique, s'il n'y a pas d'indication à l'utilisation de bêta-bloquant, par la suite, il faudra arrêter le traitement parce que ça n'a pas de sens que de continuer à donner des bêta-bloquants à un patient qui a fait juste un passage en fibrillation auriculaire en réanimation, puisque la physiopathologie, c'est surtout le déclenchement par des triggers lorsque ces triggers ont disparu, eh bien, le bêta-blocage n'est plus indispensable. Donc, bien penser à la fin de l'hospitalisation d'arrêter ce traitement par Perros. Voilà un petit peu les réponses aux trois questions qui m'étaient posées sur les bêta-bloquants de courte durée d'action dans l'état de choc septique. Et je vous remercie de m'avoir demandé de répondre à ces trois questions.
Merci professeur Slama de nous avoir parlé de l'utilisation des bêta-bloquants dans le choc septique. À la semaine prochaine dans Ligne de mire. Merci.